On va lancer. Donc il y a à la fois du présentiel et du distanciel. Je surveillerai le chat parce qu'il y a des problèmes techniques et ou des questions en essayant de les compiler. Bon, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Aurélien. Tu es assez connu du monde académique et du grand public en général, mais je pense que c'est toujours de bon aloi de présenter notre interlocuteur, notre conférencier du jour. Donc, tu es titulaire d'un double doctorat, l'un en astrophysique et l'autre en philosophie. Et c'est d'ailleurs cette double casquette qui nous a intéressés pour le thème du jour. Tu es professeur à l'Université Grenoble-Alpes et directeur du Centre de physique théorique. Et le labo de rattachement, il est à côté sur le campus scientifique là, de Grenoble, campus CNRS qu'on appelle. C'est le laboratoire de physique subatomique et de cosmologie. Donc aujourd'hui, tu vas ouvrir un cycle de conférences dans lequel le collectif Labo en transition a cherché à élargir notre horizon au-delà des sciences dites dures. Et c'est ainsi que nous parlerons dans les prochaines semaines d'alimentation avec Laurent Beck-Champlan en début avril. On aura peut-être d'ailleurs une autre conférence fin mars, mais elle n'est pas encore confirmée, là aussi, d'ouverture. Nous parlerons économie avec Florian Fizen à la fin avril et histoire avec Sophie Vaniche début mai. Voilà, tout le programme, il est sur le site web. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir en distanciel, mais il est passé transition.nl.cnrs.fr avec tout le programme et plein d'autres sources documentaires. Justement, avant d'en venir à la conférence du jour, quelques mots sur le collectif Labo en transition, qui regroupe des chercheurs et chercheuses et personnels techniques du CNRS, de l'université aussi du CEA, dont les labos sont situés donc, sur la presqu'île scientifique de Grenoble. Donc on s'est donné comme objectif de réduire les impacts environnementaux et d'améliorer la soutenabilité de nos activités de recherche. C'est ça qui nous amène d'ailleurs directement au sujet de la conférence du jour, qui est le devoir d'exemplarité du monde de la recherche. Donc je voudrais juste des points de réflexion qu'on a soulevés entre nous. Je pense que tu commenceras par nous faire un état, comme c'est souvent le cas, sur des éléments chiffrés sur l'état objectivement catastrophique de la situation actuelle, mais non seulement sur le climat, mais aussi sur le vivant dans son ensemble. Et les points, je te les ai soumis en fait en milieu de semaine, donc ce n'était pas l'idée d'y répondre directement à travers la conf, mais c'était aussi pour donner une couleur des questions auxquelles... les questions que nous, on se posait au sein du collectif ces derniers temps. Et donc, les voici, ces quelques réflexions. C'est, peut-on dire qu'un milieu éduqué et surtout scientifique comme le nôtre a une juste compréhension de la gravité de la situation? Et des enquêtes comme celles menées par collectif Labo 1.5 qui sembleraient montrer qu'il y a une grande sensibilité et un souhait de changement. Mais si c'est le cas, pourquoi ce n'est pas véritablement un moteur de l'action dans nos domaines? Faudrait-il envisager que la plupart d'entre nous s'en remettent aux instances académiques, lesquelles sont capables d'annonces mais beaucoup moins enclines à prendre des mesures fortes? Nous en voulons pour preuve l'ignorance totale qu'ont le CNRS ou encore la plupart, sinon toutes les universités, de leur propre empreinte carbone et encore moins le début d'une feuille de route pour y répondre. Et enfin, comment alors impulser quelque chose au niveau d'un laboratoire quand la peur de se retrouver isolé ou d'être les seuls à faire un effort peuvent constituer un frein à l'action? À partir de quel moment l'exemplarité tourne-t-elle au sacrifice? Bon, voilà, je te laisse la parole pour 45 minutes peut-être de présentation et on aura un temps d'échange après. Merci.
Ah, merci beaucoup et merci de ton invitation. Comme on le sait tous, il y a une guerre en ce moment, donc c'est toujours un petit peu dérisoire finalement de parler d'autre chose. Bon, je vais faire quand même aucun commentaire volontairement à ce sujet, non pas par des intérêts, c'est le moins qu'on puisse dire, mais parce que de temps en temps, il faut se rappeler aussi, je crois... l'aphorisme de Wittgenstein qui disait « ce qu'on ne saurait dire, il faut le taire ». Alors, venons-en au thème du jour pour lequel je te remercie à nouveau de m'avoir invité. Comme j'aime bien le faire traditionnellement, je commence juste par quelques petites données que j'ai lues dans les dernières heures ou dans les derniers jours. Donc vraiment l'actualité absolument immédiate. Donc vous savez qu'au mois d'août dernier, le volet consacré aux bases scientifiques du dernier rapport du GIEC le confirmait. Notre responsabilité dans le réchauffement climatique en cours est, je cite, « sans équivoque ». Bien. Et hier vient d'être publié le volet consacré aux conséquences de ce réchauffement climatique et aux moyens de s'y adapter face à ce qui est nommé une menace grave et grandissante. Et il apparaît que celui-ci affecte déjà la vie de plusieurs millions de personnes et qu'entre 3,3 et 3,6 milliards d'êtres humains vivent dans des régions qu'il faut considérer comme hautement vulnérables au réchauffement climatique. Deuxième petit point de l'actualité tout à fait arbitraire, hein, de ce que j'ai lu dans les derniers jours, nous avons de nouveaux résultats concernant les effets sur les océans, et une fois de plus, la montée des eaux s'avère être plus rapide que prévu. Troisièmement, les 63 Français les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la France. Mais il est intéressant de remarquer que ces délinquants, j'emploie un terme volontairement très modéré, hein, sont encore largement mélioratifement connotés dans l'imaginaire collectif commun de façon assez inexplicable. Quatrièmement, une étude nouvelle alerte sur le fait que les sols de la région méditerranéenne s'appauvrissent extrêmement rapidement, là encore, comme toujours, bien plus que prévu, à cause des pratiques agricoles. Cinquièmement, nous savons, en Australie, en Indonésie, en Californie, en Afrique, dans la toundra d'Arctique, jusqu'aux zones humides de l'Argentine, les forêts brûlent. Et les experts viennent de s'accorder dans un nouvel article de recherche sur le fait que ces méga-feux vont nécessairement augmenter d'environ 30% d'ici 2050. Et enfin, sixièmement et dernièrement, les insecticides dits tueurs d'abeilles sont à nouveau autorisés. Vous le voyez, la transition dont on parle n'est pas véritablement commencée. Alors j'en reste là pour l'actualité. Quelques mots du contexte global, puisque vous êtes tous intéressés et sensibilisés, je crois que c'est inutile d'aller dans les détails. Je me permets juste de répéter mon mantra habituel, les trois chiffres qui, à mon avis, résument tous les autres, à savoir qu'en quelques années, nous avons vraisemblablement perdu, il faudrait dire en réalité, nous avons vraisemblablement tué environ les deux tiers des insectes, ce qui est un chiffre absolument inimaginable. En quelques décennies, les deux tiers des mammifères et des poissons, et en quelques millénaires, les deux tiers des arbres. Donc la conséquence, c'est que la vie, quel que soit essentiellement le secteur dans lequel on la regarde, est en train de s'effondrer sur notre planète. Je voudrais juste, avant d'en venir au point qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir l'exemplarité attendue du monde académique, souligner encore deux ou trois points d'analyse globale sur ce qui me semble être, peut-être à tort évidemment, des incompréhensions fréquentes. D'abord, rappeler que ce dont il est question, ce n'est pas une peur de ce qui va arriver demain. C'est déjà un constat de ce qui est en train de se passer, puisque les chiffres que je viens de donner sont des bilans et non pas des prospectives. Alors j'ai beaucoup parlé des animaux et des arbres, mais ça touche aussi les humains, puisqu'on estime qu'en Europe, il y a environ 800 000 morts prématurées par an dues à la pollution. Là encore, c'est un chiffre proprement inimaginable. Le fait que ce ne soit pas notre obsession défie toute forme de rationalité élémentaire. La situation est intenable. Bon, ça, on le sait. Là encore, ce n'est pas l'avis d'Aurélien Barraud, dont tout le monde se moque, et finalement moi le premier. C'est scientifiquement acté, on le sait depuis 50 ans, on le sait depuis le Club de Rome. La courbe de la prélèvement est aujourd'hui très supérieure à la courbe de la capacité écosystémique. Voilà. Bon, vous savez, c'est comme un peu comme quand on est à découvert à la banque. C'est possible, mais pas pendant très longtemps. Et après, il faut payer les intérêts. Et donc, on sait de façon scientifiquement certaine que la correction sera brutale. Et elle sera évidemment d'autant plus brutale qu'on ne l'anticipe pas. Donc la question n'est pas du tout de savoir si, oui ou non, on va décroître. La réponse est déjà connue à ça. C'est un oui inconditionnel, quels que soient nos désirs et quelles que soient nos attitudes. La seule question, c'est de savoir comment ça va se passer. Voilà. Autrement dit, soit on en profite pour tenter de colorer améliorativement cette évolution qui pourrait être pour le meilleur, mais pour ça, ça commence à être déjà un peu tard, soit on prend de plein fouet l'effondrement, et là, ça sera dramatique au niveau écologique comme au niveau social. Et je voudrais aussi nous rappeler le fait que ce soit intenable n'est pas le seul argument important. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien être dans une situation parfaitement durable et pour autant extrêmement violente. En ce moment, on tue environ tous les 4 jours autant d'animaux qu'il existe d'êtres humains sur la Terre. Quand bien même ça serait tenable, on pourrait se poser la question. Est-ce que c'est souhaitable? En ce moment, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. Quand bien même ça serait pérenne, on pourrait se demander, est-ce que c'est souhaitable? Donc il ne faut pas confondre le fait qu'une situation peut durer avec le fait que cette situation est enviable. Je crois que c'est des questions extraordinairement différentes. Et je crois que c'est pas important de sauver le climat. Voilà, moi j'aime pas du tout ce slogan. D'abord parce que le climat, c'est qu'un petit aspect du problème. Vous savez que nous sommes dans la 6e extinction massive et que pour le moment, le climat ne joue aucun rôle dans celle-ci. Donc, quand bien même on n'aurait pas un degré de réchauffement climatique, on serait quand même dans un effondrement sans précédent du vivant pour ce qui est de ses causes et de ses échelles de temps. Nous avons donc cette chute de la biodiversité, nous avons la réaffectation des sols, nous avons les cycles biogéochimiques qui sont rompus. Tout cela est au moins aussi important que le problème climatique. Et ensuite, parce que le climat, c'est un symptôme, hein, c'est pas une cause. C'est une conséquence parmi d'autres de ce que je nommerais une faillite de la sensibilité. Si notre objectif ne change pas, je crois qu'avec ou sans crise climatique, de toute façon, la vie s'effondrera. Je vais essayer de l'expliquer. Et dernier point de confusion que je voudrais rappeler, il n'y a pas, contrairement à l'imaginaire délirant de certains de nos dirigeants politiques qui le laissent croire, de découplage entre la hausse du PIB et la catastrophe écologique. En réalité, ce que montrent les données factuelles, c'est qu'il y a surcouplage. Donc on peut croire au Père Noël, mais on ne peut pas, je crois, parier la survie de nos enfants sur cette croyance. Alors j'en viens à ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la question de l'exemplarité du monde académique. Voilà, c'est une question évidemment très intéressante. Alors c'est une question complexe. Bon, évidemment, au sens littéral, être exemplaire, c'est pas difficile, parce que tout comportement est de fait un exemple. Bon, et constitue une instanciation de ce dont il est question. Mais évidemment, l'implicite de cette remarque, c'est que cette manière d'être devrait être un exemple à suivre, et pas seulement un exemple parmi d'autres. Et c'est là, je trouve, que l'injonction devient assez critiquable. Au nom de quoi l'académie, puisque c'était tes mots, s'arrogerait-elle ce statut d'exemplarité qui est à la fois enviable, évidemment, et très inquiétant? Étymologiquement, vous savez que l'académie, c'est le nom de la promenade sur les bords du Céphise où Platon érigea son école de philosophie. École d'ailleurs qui ne peut pas exactement être considérée comme un lieu de subversion et d'exploration débridée des possibles. En un sens, je sais que le raccourci est un peu court et les philosophes vont m'en vouloir, mais enfin, en un sens, Protagoras, le sophiste, l'ennemi mortel de Platon, bien loin de l'académie, serait peut-être aujourd'hui beaucoup plus intéressant et inspirant pour nous que le disciple de Socrate. Mais revenons au sens contemporain. Oublions un instant l'agora athénienne. Pourquoi devrions-nous être exemplaires? Alors, la première réponse évidente, bien sûr, c'est parce que nous détenons le savoir. Est-ce que c'est vrai, ça? Sincèrement, j'en suis pas tout à fait certain. D'abord, parce qu'en écoutant les arguments de mes éminents collègues, et je le dis sans cynisme, je parle vraiment de scientifiques extraordinairement respectables et admirables, je suis quand même parfois un peu étonné par l'incapacité à penser hors du cadre d'un problème technique qui aurait une solution technique. Nous autres physiciens, nous avons tellement l'habitude de situations relativement simples, toujours simples en fait, même dans mon domaine en gravitation quantique, les choses sont extraordinairement simples par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face ici. Et je crois que cette habitude nous donne l'impression qu'il y a peu de paramètres à infléchir pour parvenir à un but qui est finalement déjà implicitement connu. Et je crois que c'est très trompeur dans la situation qui nous intéresse. Pour le dire de façon brutale, mais on est entre amis, donc je me permets d'être provocateur, parce que moi je ne crois pas à l'intérêt d'un discours qui réaffirme ce qu'on sait déjà. Et donc, pour le dire de façon provocatrice, j'ai parfois l'impression que notre situation est quasiment pire que de ne rien savoir. Parce qu'on rate totalement, avec nos présupposés de physiciens, l'aspect systémique et axiologique qui est, à mon sens, et je vais l'expliquer, le cœur du problème. Je crois en ce sens que nous sommes presque moins bien armés que nos concitoyens moins spécialisés pour comprendre la métacrise dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, la science a un très bon pouvoir d'analyse. Ça, je pense qu'on en convient tous, sinon on ne ferait pas ce métier. Elle nous indique, en l'occurrence, de combien la température va augmenter. Elle nous indique le nombre d'espèces qui vont disparaître. Elle nous indique le nombre d'arbres qui sont perdus chaque année. C'est un très bon outil diagnostique. Mais elle ne nous dit pas si cet état est souhaitable ou condamnable. Elle ne nous dit pas où nous voulons aller. Elle ne dit pas à quoi ressemblerait le monde que nous voulons construire. Et finalement, elle ne nous dit pas ce que sont les questions pertinentes à poser. Vous avez remarqué, à nos étudiants, à la fac, on leur donne toujours des questions et on leur demande des réponses. On leur demande jamais de poser des questions. Alors que pour un chercheur, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de trouver les bonnes questions. Les réponses, bon, c'est plus ou moins facile, mais généralement on a déjà fait le gros du travail quand on a posé la bonne question. Et cette incapacité à poser des nouvelles questions est proprement problématique. Alors pardon de cette sévérité envers nos collègues, nos amis, mais quand je vois le zèle avec lequel beaucoup de chercheurs, sans le moindre recul, servent un système qui certes les valorise, parce que nous sommes dans une position qui est socialement enviable, mais qui engendre un crime de masse sans précédent, je m'interroge quand même sur notre moralité au sens large. Le savoir est parfois trompeur. Il y a peu, j'ai assisté à des discussions d'universitaires, physiciens, très intelligents, autour de la catastrophe écologique. Comme c'était le thème de la discussion, tous les participants étaient sensibilisés à la question. On avait déjà un très fort effet de sélection. Il ne s'est agi dans ces longues discussions que de trouver des astuces techniques qui, à mon sens, sont non seulement inutiles, mais sont même nuisibles. Je vais revenir sur le pourquoi de cette assertion. Jusqu'à ce que quelqu'un s'énerve un peu et dise « il faut sauver la planète ». Alors ça n'a pas raté. Tout le monde l'a repris. « mais non, la planète va survivre ». Oui, merci messieurs, merci mesdames, même son doctorat d'astrophysique, tout le monde a compris que la catastrophe écologique n'allait pas faire exploser la Terre. Mais alors là, il y a eu une sorte de communion de pensée pour dire ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète. Merci, on savait, c'est l'humanité. Et 50 messages ont suivi, mais bien sûr, c'est l'humanité qui compte. Et pas un, pas une participant n'a mentionné que l'humanité n'était quand même qu'une espèce parmi 7 millions d'autres. Les autres vivants n'ont pas été réifiés, ils ont été effacé. Il n'existait pas. Alors, la deuxième raison pour laquelle on pourrait penser que nous avons à la fois le droit et le devoir d'être exemplaires, c'est peut-être non pas notre savoir, mais le fait que nous serions dotés de qualités éthiques particulières. Lesquelles ? Bon, sincèrement, j'ai pas l'impression que les scientifiques échappent à toutes les petites bassesses qui nervurent chaque communauté humaine, ni plus, ni moins. Je ne décèle pas ici, chez nous, moins de jalousie et de mesquinerie qu'ailleurs, et pour ce qui est sincèrement des égos hypertrophiés, j'ai même tendance à trouver que nous sommes plutôt les champions, nous tous, hein, collectivement. Il y a des exceptions, bien sûr, il y a parmi nous des gens admirables, nous en connaissons, il ne s'agit pas d'intenter un procès à chacun d'entre nous. Mais je dis juste que collectivement, je ne vois pas le miracle éthique que l'on aurait pu espérer. Alors, il est aisé de nous croire être du côté des bienfaiteurs, parce que la science a partillé, et c'est vrai, avec l'analyse nécessaire du désastre en cours, et donc avec ses possibles voies d'extraction. C'est tout à fait exact. Mais elle a aussi partillé avec les causes du désastre en cours. La technoscience est un des leviers majeurs du cataclysme. C'est peut-être une blessure narcissique pour nous, mais c'est la vérité. Avec la compréhension des noyaux, on fait des machines à IRM, plutôt maintenant, pardon, et on est ravi qu'elles existent, mais on fait aussi des bombes. Et dans les situations actuelles, on est un peu moins ravis qu'elles existent. Je veux simplement dire que la science est comme tout le reste. Elle n'est pas intrinsèquement du côté du bien. Elle peut l'être. Elle peut ne pas l'être. Alors, on évoquait Platon tout à l'heure, et vous savez qu'il est celui qui théorisa ce qu'on appelle le pharmakon. Alors, le pharmakon, c'est la substance qui, suivant les circonstances, peut être le mal ou le remède, le poison ou le médicament. Mais ici, c'est encore pire avec la science, parce qu'en aucun cas, je crois, elle ne peut à elle seule constituer le remède viable. Non pas parce qu'elle n'est pas assez puissante ou opérante, mais simplement parce que sa nature n'est pas adaptée à notre problème. C'est, je crois, beaucoup plus profond que ça. Nous ne sommes pas, pourrait-on dire, dans la bonne catégorie. Je vous invite à écouter ou réécouter, j'ai vu qu'elle était maintenant sur YouTube, la conférence d'Alexander Grothendieck donnée il y a 50 ans au CERN. Bon, vous savez que Grothendieck, ce n'est pas simplement un grand mathématicien, hein. C'est quand même le génie des génies. C'est vraisemblablement celui qui, au XXe siècle, en a fait autant que tous les autres réunis. Et vous voyez Grothendieck, devant la fine fleur de la physique mondiale, expliquer il y a 50 ans qu'il faut vraisemblablement mettre fin aux sciences telles qu'elles sont pratiquées en ce moment, parce qu'elles sont devenues, analyse-t-il, avec beaucoup d'arguments extrêmement rationnels, un outil d'asservissement plus que de libération, un outil d'effondrement plus que de redressement. Alors je ne dis pas que Grothendieck a raison, d'ailleurs il y a même des choses pour lesquelles l'histoire lui donne tort dans son séminaire, mais pour l'essentiel, la remarque est extraordinairement pertinente. Et je trouve que la qualité du débat dans l'amphi du CERN était remarquable, même les objections étaient très fines, et nous devrions peut-être y prendre exemple pour faire réémerger des interrogations profondes, plus profondes qu'améliorer notre bilan carbone, même si c'est évidemment nécessaire et louable, hein, bien évidemment, je vais y revenir. Mais nous sommes quand même très frileux. Voilà. Toute question un peu signifiante a tendance à être bannie avant d'être étudiée. Nous sommes fiers de nos certitudes et tellement convaincus de notre supériorité éthique, pour ne pas dire à l'éthique, que ça confine parfois à l'aveuglement. Et ça, je crois, pardonnez-moi, que c'est quand même très occidental. Cette incapacité à la remise en cause, même quand la prédation est devenue suicidaire. Alors, pour l'exemplarité, on pourrait convoquer Albert Schweitzer, qui écrivait: l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer les autres, c'est la seule. Donc il faudrait être exemplaire. Sincèrement, je ne suis pas tout à fait convaincu. Pasolini était communiste et collectionnait les voitures de sport. Pas très exemplaire. Ses écrits corsaires contre le consumérisme n'en sont pas moins absolument extraordinaires. La télévision, disait-il, a fait plus contre l'âme italienne que le fascisme, et Dieu sait qu'il était opposé au fascisme. Je crois que son discours demeure pertinent, même avec ses contradictions. Je ne suis donc pas sincèrement convaincu que nous ayons un devoir d'exemplarité, ni par la valeur symbolique, ni par la valeur praxéologique, c'est-à-dire liée à l'action, que cela revêtirait. Il n'est évidemment pas pour autant question de faire l'apologie de la poursuite à l'identique. Vous l'imaginez bien. On est en situation de guerre totale contre la vie, et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes en train de gagner cette guerre. Donc nous en sommes les coupables, et bientôt, évidemment, les victimes. La guerre, voilà, il faut y penser même quand elle n'a pas lieu en Europe. C'est peut-être ça aussi la morale de cette affaire. Alors que faire? Bon, d'abord, je voudrais tout de suite annoncer que je n'ai aucune légitimité pour répondre à cette question. Je ne suis pas du tout un chercheur spécialiste de cette question. Mais enfin, aucun chercheur spécialiste n'existe. Hein, puisqu'il faudrait être physicien, biologiste, politologue, géologue, philosophe. Donc de toute façon, personne n'a l'omniscience pour répondre à cette question. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne me déclare pas du tout exemplaire, ça c'est tout à fait évident, et je ne pense pas du tout avoir ni le droit ni le devoir de dire à quiconque ce qu'il ou elle doit faire. Mais enfin, en tant que chercheur lambda, je peux évidemment y réfléchir avec vous, et peut-être je vais continuer, si c'est le cas, de vous surprendre un tout petit peu. Alors évidemment, il y a tous ces petits détails qu'on connaît par cœur. Bon, très bien, on va éviter de changer d'ordinateur quand il fonctionne encore, on va pas prendre l'avion pour aller à une conférence à l'autre bout du monde qui finalement ne cherchait qu'à rajouter une ligne sur notre CV pour maximiser un petit peu nos chances d'avoir une promotion à la première prochaine session du CoNRS. On va pas imprimer tous ces articles que de toute façon on lira jamais, on va pas venir travailler en voiture, on va s'assurer que le papier dans l'imprimante est recyclé, on va essayer de laisser dans le jardin de l'Institut s'épanouir quelques brins d'herbe avant de convoquer la tondeuse dès qu'il dépasse les 10 cm parce que c'est vraiment insupportable. On ne va pas manger de viande au restaurant du CEA. Très bien. Tout ça, on le fait, plus ou moins, suivant les personnalités, mais on sait qu'il faudrait le faire. C'est même pas la peine d'y revenir. Je crois qu'on ne peut pas rabattre sur l'initiative individuelle un problème qui est fondamentalement systémique. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas construire un monde viable en demandant à chacun de faire individuellement exactement le contraire de ce qui est par ailleurs considéré et connoté comme souhaitable par toutes les normes sociétales dans lesquelles nous nous trouvons. Et on ne peut pas dire simultanément à nos enfants « Le mercantilisme nous tue et il faut en sortir, mais si tu es doué, mon fils, tu feras HEC. » C'est ce que Jacques Derrida, un philosophe contemporain français que j'aime beaucoup, nommait la double contrainte. Double bind, ça ne marche pas. Alors, si on va un peu plus profondément, moi je crois qu'il y a le problème des valeurs, que c'est vraiment une crise qui est avant tout axiologique, et que le problème fondamental de notre pratique, puisqu'on est quand même là pour parler de nous, les chercheurs, c'est que nous ne faisons plus, si tant est que ce fut le cas dans le passé, parce que la nostalgie parfois est trompeuse, de la science pour les bonnes raisons, honnêtement. Ce qui qualifie notre succès vis-à-vis de nos collègues et même de notre propre imaginaire, souvent, c'est quoi? C'est d'avoir une ERC, une ANR, une nomination à l'IUF, un financement par tel ou tel programme national, une invitation à Stanford, un article dans Nature. Finalement, quand vous lisez les conclusions d'un conseil scientifique, je n'ai pas lu beaucoup dans ma vie, mais j'en ai lu quelques-unes comme chacun d'entre nous, souvent je trouve ça terrible en fait, extrêmement effrayant, même quand les collègues ont bien travaillé, ils sont fort sympathiques. Parce qu'on parle de tout sauf de science quand vous lisez vraiment ce qui est écrit. Je crois n'avoir jamais lu dans le compte-rendu d'un CS qu'un groupe était félicité pour avoir proposé une belle théorie. En fait, on évalue la qualité d'un travail au nombre de financements, à leur montant, au réseau collaboratif mis en place, aux synergies déployées, aux responsabilités obtenues, aux récompenses décrochées, aux coordinations prises en charge. Mais qui se demande, même dans un conseil dit scientifique, qu'avons-nous vraiment découvert? Comprenons-nous mieux le monde, puisqu'on est censé être payé pour ça? Alors, on pourrait supposer que ce problème, qu'on connaît tous en fait, hein, n'a rien à voir avec la catastrophe écologique. Eh bien, moi, je crois qu'il a tout à voir, en fait. Parce que le vrai problème, à mon avis, ce ne sont pas nos émissions de CO2. Ça, c'est un symptôme. Comme je l'ai expliqué, c'est une conséquence. Le vrai problème, c'est qu'on ne met pas sur la table ce qu'on veut vraiment, y compris en science. On se demande, pas nous les chercheurs, mais la société ingénierique, on va dire, comment accélérer toujours plus le débit des données sur Insta, sur Snap, sur Switch et sur FB, si possible en consommant moins, parce qu'on est quand même des chic types. Bon, bien sûr, on intègre ça dans la feuille de route, mais on ne se demande pas si avoir remplacé les livres par cette merde est une bonne chose. On ne se demande pas si avoir cru que la pensée en 180 caractères était possible est une bonne chose. On ne se demande pas si avoir créé des armes de débilitation massive est une bonne chose. Alors, on cherche aujourd'hui, et certains le font avec sincérité, de meilleurs indicateurs de l'excellence dans la recherche. Bon, c'est mieux d'avoir de bons que de mauvais indicateurs. Très bien. Mais on ne se demande pas si l'idée de classer et de hiérarchiser des réflexions qui sont par essence spéculatives est en soi souhaitable. On sait que les nombres complexes ne sont pas ordonnés. Pourquoi l'idée que les pensées complexes ne soit pas non plus, ne nous effleure-t-elle même pas? Donc il me semble que si quelque chose devait être remis en cause dans nos pratiques, et finalement je crois que c'est la même chose partout, c'est cette immense implicite en fait, c'est cette immense impensée qui veut que le désirable soit la prolifération, presque tumorale en fait, de la production. Alors je dis bien de la production, hein, pas des idées, parce que les idées ça pose pas de problème, tout au contraire d'ailleurs. Mais nos machines, nos articles, nos workshops, nos comités, on le sait bien en fait, sont devenus pour l'essentiel des fins et non plus des moyens. Et je crois que, en tant que chercheur, c'est là qu'il faudrait essentiellement travailler. C'est beaucoup plus important que l'isolation thermique de nos bureaux. Alors le second point essentiel, évidemment, c'est la finalité de la recherche. Est-ce qu'on peut continuer à travailler sur les trous noirs quantiques quand le monde est en train de mourir? Alors d'abord, comme on est ici un sous-groupe biaisé, je me permets juste de rappeler que toute la communauté scientifique n'a pas compris la situation, loin s'en faut. Beaucoup de nos collègues pensent encore qu'il s'agit d'une lubie. J'ai entendu des réactions quand même sidérantes, hein. Pensée magique, mais la beauté en moins. On ne sait pas bien si c'est la peur de la vérité qui se révèle ici, ou si c'est juste l'inertie d'une pensée qui est incapable de s'extraire de ses cadres,
de son confort, mais il se passe quelque chose d'assez étonnant en termes de dissonance chez certains de nos confrères et certains de nos consoeurs. J'ai noté, croyez-moi sur parole, je ne peux pas dire de nous puisque je suis en train de dire des vacheries, mais un niveau d'incompétence chez les politiques au plus haut niveau, voilà, on va dire au moins ministre, on ne peut en dire plus, et chez les scientifiques au plus haut niveau, on va dire titulaires de prix Nobel, on ne peut pas en dire plus, qui sont absolument incroyables, incroyables, même face à une menace que l'ONU, qui n'est pas spécialement alarmiste, qualifie d'existentielle directe. Mais chez les collègues qui ont compris, voilà, chez ceux-là, je trouve que la réaction la plus fréquente, elle s'apparente à un « allez, touche sur le pont, touche sur le pont, orientons maintenant nos travaux vers la recherche de la solution ». C'est très louable, c'est très courageux, je suis très admiratif de cette résolution, mais je ne pense pas qu'elle marchera. Parce que, imaginez, c'est quoi la solution ? Parce que la solution n'est pas définie, en fait. Imaginez qu'on ait un jour une source d'énergie presque inépuisable et presque propre. Par exemple, la fusion nucléaire. On pourrait discuter si elle est inépuisable ou si elle est propre. Mais supposons qu'elle le soit. Mettons les hypothèses du côté favorable. Est-ce que ça serait la solution ? En ce qui me concerne, je pense que ça serait pire que tout. Pire que tout. Parce que le vrai problème, ce n'est pas les émissions de CO2 liées aux énergies, en particulier les fossiles, que nous utilisons. Le problème, c'est ce que nous faisons de l'énergie. C'est ça le problème. Ce n'est pas une question scientifique, c'est une question politique, philosophique et même poétique. Je vais y revenir. Vous imaginez ce qui adviendrait si on n'avait plus de frein pour transformer cette planète en déchets, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ce que je veux dire, c'est que avec une énergie presque infinie à notre disposition pour, comme on le fait en ce moment, remplacer les forêts par des parkings de supermarchés, et forcément, on ne pourrait qu'accélérer le désastre si on ne change pas les objectifs. Quand vous avez détruit un espace gorgé de vie pour le remplacer par un centre commercial, que ce soit avec un bulldozer qui fonctionne au pétrole, au nucléaire ou au solaire, ça change rien. Ça n'a plus d'importance. À la fin, la vie a disparu. Aujourd'hui, nous artificialisons entièrement notre planète. Que ce soit avec ou sans émission de CO2, ne change absolument rien à l'état final. Ça change juste la vitesse à laquelle on arrive à la même catastrophe finale. Alors, il me semble qu'il faut absolument comprendre que la solution, si tant est qu'il y en ait une, ne consiste pas à mettre notre intelligence, si tant est que nous en ayons une, au service de solutions techniques. Parce que le problème n'est pas de nature technique, c'est un problème de valeur. Tant que la disparition de la vie est considérée comme une externalité négative dans une dynamique que l'on nomme progrès et qui fait pulluler des objets techniques parfaitement insensés et détruisant 65% des populations animales en plaçant l'humanité dans une situation critique, il me semble qu'aucune astuce, finalement, ne pourra avoir d'autre effet que d'accélérer la chute, puisque le but est lui-même celui d'une sorte de suicide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, d'abord, sincèrement, j'en sais rien, mais à mon humble avis, je crois qu'il faut utiliser nos moyens infimes, parce qu'on n'est pas en situation de force, évidemment, pour tenter modestement de contribuer, finalement, avant tout, à enchanter une autre manière d'habiter le monde. Moi, je crois, c'est peut-être naïf, hein, et de façon provocatrice sans doute, mais je crois quand même sincèrement que c'est beaucoup plus intéressant de proposer un autre rapport à l'espace que de s'évertuer à baisser de 10% la consommation énergétique de nos téléphones, ce qui, vous le savez très bien, induira immédiatement une hausse d'usage d'au moins 10%. Il y a peu, mon ami Carlo Rovelli, qui est un physicien génial, a proposé une nouvelle interprétation de la mécanique quantique. J'entre pas dans les détails, si vous voulez, on fera un séminaire pour ça. C'est une interprétation relationnelle. L'essentiel des paradoxes interprétatifs qu'on a tous appris dans les premières années d'université, c'est l'apport. Si on considère que l'état quantique d'un système ne représente pas le système lui-même, mais uniquement ce qu'il est en interaction avec un autre système. Autrement dit, une fleur pourrait être bleue pour une guêpe et la même fleur pourrait être verte pour une abeille. Enfin, évidemment, on ne voit pas beaucoup ça au quotidien parce que les effets d'interférence dans le monde macroscopique sont réduits. Mais au moins, en principe, c'est possible. Moi, je trouve ça extraordinairement enthousiasmant. Et pour être honnête, je trouve ça extraordinairement écologique. Non pas parce que ça va améliorer notre bilan carbone, hein, on est bien d'accord avec ça, mais parce que là, on a matière à frissonner, en fait, de plaisir ou d'exaltation devant quelque chose qui n'a rien à voir avec notre endoctrinement mortifère ou futile. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière publicité d'Orange sur la 5G. Ça s'appelle, je cite, « Rapprochons-nous de l'essentiel ». Alors qu'il s'agit très précisément, en boostant les flux délétères de TikTok et de Twitter, de nous éloigner de tout ce qui pourrait avoir un bon soit peu de consistance. Alors quand on voit que l'archétype, littéralement, du superflu, est vendu sous le nom de retour à l'essentiel, je crois qu'on se rend compte que le travail doit aussi porter sur la langue et sur les symboles. Alors, je vais clarifier un peu. Vous pourriez conclure que ce que je propose, quand même, finalement, pour lire entre les lignes, eh bien, c'est de continuer comme d'habitude. Parce que trouver des belles choses, à la base, c'est notre métier. C'est pas vraiment ça. Parce que c'est vrai, il me semble que nous reconvertir tous en ingénieurs de la décarbonation, ça serait non seulement inutile, mais même nuisible. Parce qu'on n'aurait toujours pas changé l'objectif. Quand l'objectif est la mort, quel que soit le moyen dont vous l'atteignez, à la fin, vous l'avez atteint. Je vous passe les banalités sur les faits rebonds, la hausse d'usage, surtout qu'on pense toujours, c'est presque un théorème, en tout cas à l'échelle de l'histoire, la hausse d'efficacité. Mais en plus, j'y insiste, même si ce n'était pas le cas, même si on n'avait pas d'effet rebond, si on ne change pas d'image sur le monde à atteindre, je ne comprends pas ce qu'il pourrait se passer de souhaitable. Si on continue d'artificialiser cette planète, de toute façon, à la fin, c'est la vie qui meurt. Alors, il me semble que ce que nous devrions faire, en fait, c'est jouer notre vrai rôle de chercheur. Alors, je ne sais pas ce qu'il voudrait dire d'intellectuel. Je trouve ça un peu pédant et un peu prétentieux. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que ce rôle, finalement, c'est d'inventer un tout autre monde. Quand on était jeune et qu'on a choisi de faire ce métier, il me semble que c'était pour ça. Non pas au sens technique, mais au sens ontologique, c'est-à-dire vraiment en ce qui concerne l'être en tant qu'être. C'est pour ça que j'évoquais Robin. Découvrir que peut-être les probabilités des choses n'existent que pendant les interactions et que de façon relationnelle, c'est ça, inventer un tout autre monde, proposer un tout autre monde, ouvrir des portes et des questions qui étaient jusqu'alors inexplorées. Et ça n'a rien à voir avec le délire New Age, l'interprétation mécanique quantique des années 70, c'est la conscience qui crée le monde. C'est pas du tout ça dont il est ici question. Ça serait tout le contraire, si vous voulez, de ces folies-là spatiales des voyous californiens qui aujourd'hui maculent le ciel, qui était quand même un peu le dernier refuge de ce qu'on espérait être intouchable. Alors, créer des ordinateurs quantiques, par exemple, c'est une chose sur laquelle on travaille à Grenoble, pour avoir une super IA, intelligence artificielle, qui nous tirerait d'affaire, pour moi, c'est la plaisanterie du jour. D'abord parce qu'une intelligence artificielle est intrinsèquement non disruptive, donc inintéressante. Et ensuite, parce que je trouve, pardon, je suis un peu provocateur, mais on va en discuter ensuite autour d'un café en sapant sur l'épaule, hein, c'est pas du tout méchant de ma part, mais je trouve que c'est un peu la solution qui consiste à dire on va passer de la bière au whisky pour s'extraire de l'alcoolisme. Non, quoi. Accélérer la dose d'alcool, ça ne fait pas sortir de l'alcoolisme. Donc, je ne crois pas que créer des objets quantiques, des objets techniques toujours plus sophistiqués soit un problème, alors que factuellement, c'est aujourd'hui une très grande partie, soit une solution, pardon, alors que c'est factuellement une très grosse partie du problème. Je crois qu'il faut inventer de la contingence. C'est-à-dire, découvrir et accepter que les choses auraient pu être autres. Toute pensée aujourd'hui qui relève de la surenchère affirmatrice est, à mon sens, coupable. Ce n'est pas d'ingénieur qu'on a besoin, c'est de poètes. Mais les bons ingénieurs sont aussi des poètes. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne s'agit pas de tous se reconvertir, hein, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être poète dans son métier d'ingénieur. Ça, je veux dire. C'est-à-dire comprendre les enjeux et oser des décadrages qui étaient jusque-là interdits par la grammaire. C'est ça que s'autorise le poète. C'est pas écrire une énième anthologie de l'histoire de l'humanité dont tout le monde se fout. Autrement dit, oser des décalages. Alors évidemment, ça peut être une révolution, mais ça, n'est pas Newton ou Einstein qui veut, on aimerait tous l'être, mais en ce qui me concerne, j'ai pas réussi. Donc ça peut aussi être de façon beaucoup moins évidemment mirobolante dans l'organisation de nos équipes, dans la manière de considérer la marche, la faille, l'essai, parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait que de tout réinventer. Donc il me semble qu'il faudrait travailler les causes et non pas les symptômes. Je me répète, excusez-moi, on peut trouver des supras qui vont minimiser les pertes, c'est un euphémisme en termes de minimisation de pertes, mais si le courant à la fin est toujours utilisé pour détruire les conditions d'habitabilité de la planète, ça change pas grand-chose. Je reprends l'image d'Arthur Keller, que j'aime bien, je vous invite à regarder sa conférence à Centrale, qui est excellente. Si vous avez un cancer du cerveau, vous pouvez prendre du doliprane pour avoir moins mal à la tête, ça va faire un peu d'effet, mais pas très longtemps. Aujourd'hui, je crois que ce qu'on essaye de mettre en place avec la techno bas carbone, c'est du paracétamol. Ça soulage un peu, mais ça ne résout pas du tout l'origine fondamentale du problème. Ce qu'il faut mettre sur la table, c'est ce qu'on veut. Il ne faut pas se laisser voler notre liberté de choix d'un but et faire comme s'il était intrinsèquement évident que mettre notre espèce en danger pour augmenter la densité d'objets connectés était souhaitable. Peut-être que ça l'est, mais encore faudrait-il qu'on le décide collectivement et qu'on le dise. Et même si c'était tenable, cette situation, celle dans laquelle nous nous trouvons, ce qui est faux, hein, bien sûr, ce n'est pas tenable, mais même si ça l'était, est-ce que le monde d'Elon Musk, par exemple, et de tous les autres délinquants à son image, c'est-à-dire un monde où des machines, il en rêve, hein, permettraient de lire dans le cerveau, où on commercialise pour le fun des lance-flammes, où on fait croire que des 4x4 de 2 tonnes sont des voitures écologiques, où on dégrade, où on macule, où on salit le ciel étoilé, où on mercantilise et commercialise l'espace, où on met des putains de bagnoles en orbite pendant que la vie est en train de mourir sur Terre. Est-ce que ce monde est désirable? C'est ça la question. Moi, j'y vois plutôt une dystopie, que ça émette ou non du CO2. Je ne sais pas si vous avez vu l'excellent film Don't Look Up. Moi, je le trouve très, très bon. Mais ce n'est pas une caricature. Hein. Je trouve que c'est en dessous, en réalité, de la vérité. La communauté scientifique n'est pas épargnée dans ce film. Et je trouve ça très bon. Je pense que c'est à un juste titre, parce que nous avons, pour beaucoup, d'une façon ou d'une autre, des connivences avec les marchands de mort. Ce brave astrophysicien, pour le film Don't Look Up, qui croit aider en faisant le tour des plateaux de télé et qui en réalité ne renforce que le show qu'il a l'impression de dénoncer, je l'ai été hein, pendant quelques mois, ce brave type qui se plante complètement. Voilà, avant de me rendre compte évidemment que c'était effectivement ce qui était en train de se passer. Mais la capacité d'absorption de notre système est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Vous écrivez un livre pour dénoncer l'horreur Amazon, le livre sera vendu sur Amazon et enrichira Amazon. C'est à la fois génial et tragique, comme notre temps. Alors, faut pas se faire voler une fois de plus les concepts. Croissance. Bon, ça pose aucun problème, la croissance. Si on parle de des idées, des pensées, des connivences, des calculs, des poèmes, des sonates, des sourires, des subversions, des explorations, de tout ce que vous voulez. Mais si on parle du PIB, en tant qu'il est une mesure de notre capacité à transformer la planète en déchets, ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Alors oui, effectivement, il faut renoncer à la croissance. Je vais finir avec un mot sur l'enseignement, puisque certains d'entre nous sont enseignants-chercheurs. Je crois qu'il ne faut pas faire trop d'illusions non plus de ce côté-là. J'ai lu il y a quelques années un sondage qui montrait que les 18-22 ans étaient les plus climato-sceptiques. Il est faux et inconséquent de faire tout reposer sur nos successeurs. C'est trop facile. D'autant plus que, franchement, des décennies d'apprentissage des horreurs de la guerre ne nous ont manifestement pas prémunis contre ces dernières. Quant aux ravages du néocolonialisme qui sont maintenant un peu enseignés et qui sont avérés, nous n'en avons pas tiré, me semble-t-il, la moindre humilité. Pour autant, c'est vrai, l'enseignement est quand même un levier, parmi d'autres. N'y renonçons pas, ça va sans dire. Mais sachez, enfin, vous savez aussi bien que moi, hein, je ne vous donne aucune leçon, je partage juste mes idées, que c'est très difficile. Parce que la posture de mise en garde contre les catastrophes dans lesquelles nous nous trouvons serait, entend-on souvent dire, militante. Et il ne faut pas le militantisme dans les lieux sérieux que sont les universités. Nombre d'entre nous sont obsédés par la neutralité. Je voudrais juste y réfléchir quelque chose. Premièrement, c'est quand même très étrange cet argument qui stipule que nous serions, avec la réflexion sur la crise écologique, une pensée spéculative et donc inacceptable à l'université. Et enfin, bon sang, la pensée scientifique est spéculative par essence. J'enseigne en master de physique la théorie quantique des champs en espace courbe, et je vous jure que ça n'a pas été vérifié expérimentalement, et je vous jure que personne ne s'en émeut. C'est un lieu commun épistémologique. La science a, par essence, partie liée avec l'exploratoire et le fragile. Aucune théorie n'est jamais prouvée, on l'a tous appris en terminale au cours de philosophie des sciences. Et souvent, de bons indices suffisent à considérer un modèle comme digne d'étude. Mais curieusement, l'amoncellement accablant d'éléments en faveur de l'existence d'une catastrophe déjà en cours et dont le niveau de certitude est quand même à peu près voisin de celui de la rotondité de la Terre semble n'être pas suffisant pour certains de nos collègues pour qu'on puisse se préoccuper du problème et le prendre au sérieux alors, dans le niveau de l'enseignement, alors qu'il est quand même un peu plus substantiel que l'évaporation des trous noirs qui m'occupe une grande partie de mon temps. Beaucoup de nos confrères pensent qu'il n'est pas encore temps d'évoquer tout cela en cours, à croire qu'ils considèrent qu'il sera légitime de philosopher sur notre mort quand nous serons morts, ce qui est une posture métaphysiquement intéressante, mais praxéologiquement assez inutile. Deuxièmement, je crois qu'il faut faire attention à ce fantasme de neutralité. Bon, évidemment, il n'est pas question de transformer l'université en un lieu de propagande. Évidemment. Tout le monde est d'accord avec ça. Il n'est pas question que tel ou tel enseignant appelle à voter pour tel ou tel candidat. Évidemment, tout le monde est d'accord avec ça. Ça va sans dire. Ce n'est même pas la peine de le rappeler, tellement c'est une évidence. Personne ne le conteste. Il n'en demeure pas moins, on le veuille ou non, qu'aucune pensée n'est littéralement neutre. Nous ne sommes pas Dieu. Et il nous est impossible d'accéder au réel en reniant un point de vue particulier sur celui-ci. Même notre bien-aimée science est un prisme très spécifique, historiquement et culturellement situé, d'appréhension du réel. Un prisme, parmi d'autres, que ça blesse ou non nos égaux. Et même en se focalisant sur les sciences dures, vous savez très bien qu'un théoricien des supercordes et un expérimentateur des écoulements turbulents ne vivent pas dans le même monde, n'ont pas des critères comparables de rectitude et de vérité. Bon, il est temps que je conclue. J'ai pas du tout suivi ce qui se passe autour de l'élection présidentielle en France. Je crois que pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, je vais peut-être pas voter. Enfin, sans doute, je le ferai quand même, parce qu'il y a des gens en situation précaire, en situation sans papier, etc., pour qui ça peut changer des choses qui relèvent de la vie ou de la mort. Donc, sans doute, je le ferai, mais vraiment sans envie. Et ce que j'ai vu m'a quand même vraiment atterré, consterné et même un peu révolté quant à la médiocrité du débat. Je ne parle pas de la langue de bois, assez hémétique évidemment, de tous ceux qui n'ont d'autre obsession que de séduire les uns sans trop dégoûter les autres. Ça, c'est habituel. Mais je parle de la nature même des problématiques abordées. Honnêtement, dans 20 ou 30 ans, quand nous verrons ce qui nous intéressait, ce qui nous importait en cette année 2022, je suis absolument persuadé que nous aurons honte, et à juste titre. Nous autres scientifiques, et quand je dis scientifique, ce n'est pas une définition de ce que nous sommes, en fait. C'est juste une propriété de ce que nous savons faire. Je crois que nous ne devons pas nous penser comme étant au-dessus du lot. Je ne pense pas que nous ayons à montrer l'exemple, mais je pense que nous avons à participer à l'effort de guerre. C'est un effort d'ailleurs qui n'est insurmontable que quand on l'évalue avec les critères d'un monde déliquescent. Parce qu'en réalité, j'ai la conviction qu'on pourrait être plus heureux et plus intelligent en étant moins inconséquent et moins suffisant. Je crois que l'arrogance ultime, la nôtre bien souvent, et je m'inclus dans l'eau bien sûr, c'est de croire que le monde ne pourrait pas être autre, en tous les cas pas dignement autre. Je crois que pour s'extraire de cela, il faudrait apprendre à penser contre soi, et non pas tenter une fois de plus, une fois de trop, de donner des leçons à l'ensemble de la planète, mais parler pour l'autre et penser contre ses intérêts, c'est quelque chose de très difficile, même pour nous. Merci.
Est-ce que le deuxième micro marche? Voilà. Ouais. Et bien, prendre des questions dans la salle, sur Internet, vous pouvez envoyer des questions par le chat, je pense que ce sera plus souple.
Bonjour, bonjour Aurélien. Évidemment, pour interagir avec toi, c'est presque un séminaire qui pourrait être notre séminaire. Et pour rebondir, quelques choses que tu as dit, le mot, c'était, une fois d'ailleurs, pour cette trois quarts d'heure, c'est le mot politique, la suite d'une fois, c'est le mot valeur, la suite d'une fois aussi. Et pour autant, je pense que c'est un peu l'essence de la problématique. À savoir que on n'est pas dans un système parfait. Par contre, on peut le voir dans notre histoire et dans ce qui se passe aujourd'hui. La politique qui est menée est peut-être le moins mauvais des exemples de politique qu'on peut faire. Je parle aujourd'hui de démocratie. D'accord ? Je remets dans le contexte actuel. Évidemment, cette démocratie dans laquelle on est et ce système de politique engendre le fait que tu es un pouvoir et un homme qui a un pouvoir avec un système pyramidal. Donc, est-ce que c'est pas ça qui peut remettre en cause, c'est-à-dire cette façon de voir justement notre façon de gérer les sociétés? Et est-ce que ce n'est pas dans ce système qu'on en oublie justement tout ce qui est valeur, tout ce qui est et d'abord tout ce qui est valeur, mais surtout on utilise très très mal le côté pouvoir de ces systèmes.
On fait peut-être qu'on prend deux trois questions dans la salle.
Moi, je pense qu'on peut.
Je vais essayer de faire vite. J'ai beaucoup trop parlé. Je te remercie. Évidemment, je suis d'accord avec toi. C'est extrêmement pertinent et intéressant. Évidemment. Bon, j'assume, si tu veux bien, jusqu'au bout de la séance, mon rôle de provocateur. Je suis pas sûr d'être d'accord quand même aujourd'hui que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de moins mal. Évidemment, on peut trouver plein de régimes pires que le nôtre. Ça, c'est facile. Et on a des noms de pays qui nous viennent spontanément à l'esprit dans lesquels on n'aimerait pas vivre. Et on est tous d'accord là-dessus, et ça serait pour le coup pas une provocation, mais une ignominie de le nier. Très bien. Il n'empêche que, si maintenant on prend un peu de recul, Chomsky, par exemple, Noam Chomsky, considère que le néocolonialisme a fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, entre 50 et 60 millions de morts, c'est-à-dire plus finalement que l'ensemble des guerres du XXe siècle. Ce n'est pas tout à fait le détail. Généralement, les morts ont lieu loin de chez nous. S'en émeut un peu moins, mais c'est un peu compliqué quand même de se placer dans la condition du moins pire. En ce moment, on parle à juste titre du droit des peuples à l'autodétermination compte tenu de l'actualité immédiate. Et bien sûr, je le soutiens, tout le soutien, on est parfaitement d'accord avec ça. Mais enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas, qu'une colonie française a dû prendre son indépendance et ça s'est soldé par un demi-million de morts, si je m'en souviens bien. Je n'étais pas né, je parle de la guerre d'Algérie, pour être explicite. Donc, c'est un peu compliqué quand même de se placer une fois de plus en dehors de soi. Même si je suis d'accord avec toi, je préfère vivre ici que dans un système autocratique du Moyen-Orient, dans lequel je ne pourrais même pas donner ce séminaire. Ça, j'en conviens aussi, ça pourrait être pire. Voilà. Mais je trouve que notre monde a inventé une violence invisible. Et ça, c'est presque parfois le pire. Parce qu'effectivement, on a tous bonne conscience, mais nos téléphones sont quand même faits avec des terres rares qui sont en partie extraits par des enfants esclaves en Afrique. Et bien sûr, aucun de nous le veut. Si on pouvait appuyer sur un bouton « je paye 2 € de plus et je n'exploite pas un enfant », on le ferait. Mais in fine, on achète quand même ces téléphones-là. Mais pour être plus sérieux, voilà. J'ai très, très rapide. Je suis d'accord avec toi, le système pyramidal pose problème. Moi, je trouve que l'expérimentation des assemblées citoyennes est pas mal, en fait. C'est un peu un retour aux idées grecques. Hein. Mais ça a raté, parce qu'évidemment, Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse de transmettre sans filtre au Parlement les recommandations de la Commission citoyenne pour le climat. Et cette dernière, c'était même un peu auto-censurée. Donc ça s'est avéré être un échec. Mais en fait, sur le principe, c'est pas mal l'idée de tirer au sort des gens qui n'ont aucun intérêt personnel à être populistes ou démagogues parce qu'ils ne sont pas des professionnels de la politique, donc ils peuvent s'inscrire dans une durée temporelle plus vaste, et s'ils étaient, et ça nécessiterait une révision constitutionnelle, dotés d'un véritable pouvoir politique, je pense comme toi que ça pourrait être une voie prometteuse. En tout cas, ne rien essayer est le pire. Donc, on pourrait tenter, quoi.
Tu parlais des poètes, on a besoin de poètes. Souvent, face à l'establishment dont tu parlais, organisé d'une façon très efficace et qui fonce droit avec une communication détournée de la simplicité, est-ce qu'il est possible que les poètes s'organisent entre eux pour faire un front sans se perdre le passage?
Je ne sais pas. Je suis pas, je veux pas du tout jouer les Cassandres. En fait, ça se passe jamais comme prévu. C'est la seule chose qui est un peu belle finalement dans l'histoire. Souvent, c'est en pire. C'est pas très chouette. De temps en temps, on a des émerveillements. C'est compliqué de se dire qu'il faut s'organiser en fait, parce que même parmi les gens qui sont sensibles à cette catastrophe, on n'est pas tous d'accord. Chez les militants écolos, par exemple, je vois des gens pour qui vraiment la seule question, c'est ce qui est déjà pas mal, c'est le bien vivre de l'humanité. Presque tout le monde partage l'idée quand même que c'est vrai pour tout le monde, pas seulement pour les Européens, que ça doit englober aussi les pays plus pauvres, etc. Mais il y a des gens pour qui, si la moitié des espèces animales disparaissent, tant que l'humanité n'est pas touchée, ça n'a aucune importance. Et il y a des gens pour qui c'est au contraire quelque chose de fondamental. Et donc, je trouve qu'on n'a même pas en fait mis sur la table ce qu'on veut aujourd'hui. Même chez les militants sensibilisés à ce problème, on n'a tellement pas les mêmes objectifs que c'est extrêmement compliqué de s'organiser, en fait. Parce qu'on n'a juste pas mis sur la table ce qui était... On fait comme s'il était impossible de savoir ce que serait la solution. Et moi, je suis désolé, je ne veux pas du monde d'Elon Musk, même s'il est durable. Je le trouve absolument insupportable. Et donc... Il faut qu'on en passe par ce stade. Et s'organiser, c'est compliqué. Je crois plus, moi, à un truc un peu fractal, en fait. C'est-à-dire à une dissémination de la révolution politique, politique, axiologique, à un peu tous les niveaux. Parce que le problème, c'est que si on attend le grand soir, on risque de rien faire, quoi. Parce qu'on sait bien qu'il n'arrive pas. Et on sait bien que nos ennemis seront toujours plus forts que nous, finalement, si c'est un rapport de force à l'ancienne. Donc, je... En fait, je pense qu'il suffirait de dire et d'accepter le fait que ce qu'ils nous vendent n'est pas désirable. C'est juste ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se dit comment y arriver sans passer par eux. Et si on se contentait de ne pas y arriver, en fait. Si on se disait que c'est juste pas chouette de faire ça. Moi, quand j'ai fermé les réseaux sociaux il y a quelques années, quelqu'un m'a dit « Ouais, il faut que tu gardes tes 200 000 followers d'une manière ou d'une autre ». Non, en fait. Il y a une façon qui est de se dire « Ouais, faut que je garde là, mon pouvoir d'influence en essayant de le décarboner. » Puis une autre façon de se dire « En fait, on s'en fout. À quoi bon un pouvoir d'influence ? Moi, je ne suis pas un Instagrammeur, je n'ai pas envie, en fait. » Mais je pose ça en exemple, un peu plus. Hein, c'est juste une... enfin, si c'est un exemple, mais pas autant de l'exemplarité. Pardon.
Excuse-moi, mais justement, c'est le pouvoir qui va te permettre de changer les choses. Enfin, je te dis ça, je ne vais pas dire penseur, mais tu es bien placé pour le savoir, mais... C'est malheureusement aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, c'est par le pouvoir qu'on peut faire changer les choses. Et dans la direction, non pas que tu veux, mais qui te semble bonne, pas.
Oui, t'as peut-être raison. Mais je ne sais pas la forme que doit prendre cette opposition. En fait, vraiment, je ne sais pas. Ça, c'est... Si vous avez des idées, je vous écoute. Mais,
des idées, oui, c'est des manières de faire.
Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis convaincu que le retrait, par exemple, pour moi, était la bonne manière de faire. Voilà. J'ai plein de gens qui m'ont dit que j'avais trahi, quoi. J'ai fait 3 émissions de télé, j'ai tout arrêté. On m'a dit, mais tu passais bien. C'est vrai que j'ai fait un partout. Hein. Alors là, ça serait faux de dire que les médias me censurent. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je venais faire le bubu sur le cheveu long et que finalement, tu vas dans une émission, même si tu dis que l'émission est de la merde, ce que je faisais, en fait. Et tu me dis que par de l'audience. C'est un truc de fou, en fait. Tu vas dire aux gens, c'est une émission de merde, ils sont 2 fois plus nombreux à la regarder. C'est... Là, moi, je ne savais plus quoi faire, en fait. À part de dire, non, en fait, j'arrête, je suis en train de soutenir ce que je dénonce. Là, au moins, on est entre nous, je trouve que ça a du sens. On est très peu nombreux dans cette salle, on se connaît, on va se revoir au restaurant, on va pouvoir parler. C'est pas un coup comme, quoi. C'est une discussion entre collègues. Je sais pas.
Je sais pas. Alors, Aurélien, tu as parlé plusieurs fois de pensée systémique, aussi de le droit de
penser hors cadre, hors du cadre de nos disciplines. Et quand je regarde ce qui se passe en France, effectivement, Arthur Keller parle de systémique et c'est très intéressant. Le seul dans son coin, on en sent que le Shift Project aussi a une approche systémique. Alors après, évidemment, il reste dans le cadre de notre fonctionnement actuel, d'adapter, etc. Le rapport à l'aide aussi. Et étonnamment, en France, je vois que nos institutions, alors je suis CEA, CEA, CNRS, université, se mettent très peu en fait, dans ce cadre de réflexion systémique. La France, il y a des équipes à Grenoble, on a peut-être aussi une à Paris, mais je ne vois pas de. Donc, on paye énormément de chercheurs en France qui sont si bons dans leur discipline. Voilà, quelle est ta réflexion sur notre capacité ou incapacité, finalement, à venir vraiment confronter les disciplines dans le cadre que tu décris, voilà, pour avoir une sorte de voilà, pluridisciplinarité de façade que l'ANR nous encourage à avoir. Voilà, quelle est ta réflexion?
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. J'ai été invité, je fais pratiquement plus d'une conférence, on s'en fout de la vie, mais j'ai été invité, je le dis pour la suite, pas pour ça, à un forum grandes écoles, là, je ne sais plus quoi, HEC, X, NS, Mine, un truc comme ça, à Paris, dans quelques mois. Et je leur ai dit non, sauf si on fait un truc à trois avec Jean Covici et Keller. Bon, Jean Covici ne peut pas, mais je l'aime bien. Et donc, je vais le faire avec Keller et je voudrais le dire justement à des étudiants des grandes écoles. En fait, c'est les seuls comptes que je fais encore parce que c'est des gens qui sont sur une trajectoire. Mais d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'eux, ils sont prêts à entendre ça. Je dis à chaque fois, je vais me faire lyncher, quoi. À chaque fois, je vais voir les polytechniciens, je leur dis, messieurs, mesdames, vous êtes le problème. Et je me dis, bon, je vais ressortir en pièce. Et ils me disent, bah, reviens quand tu veux, on t'invite pour une conf un peu plus grande. Et tu te dis, même l'école fout ça sur son site officiel. Mais ça, en fait, c'est pas forcément un bon signe. Quand ils me disent, c'est un bon signe. Et après, tu dis, non, en fait. C'est la capacité de résilience du système pour finalement même critiquer le système, nourrir le système. Et là, tu te dis, merde, quoi, je vais pas non plus faire une bombe parce que je sais pas faire et c'est pas un truc que j'ai envie de recommander, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais cela dit, pour en revenir à ta question, oui, je crois que c'est stimulant. Voilà, en France, effectivement. Donc, très modestement, je vais essayer de contribuer à ce que ça manque un peu moins. Mais je trouve que ces gens sont très bons. Ouais, Jean Covici, bon, tout le monde le connaît maintenant, il est super. Mais regardez la coupe de Keller à Central sur YouTube. Regardez-la en basse définition. Et en plus, pour l'image. Mais elle est très bien, vraiment très, très bien.
Bon, pardon, tout à l'heure, mais ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis. Tu as arrêté ce qu'en France, je l'avais écouté quelques-unes, je l'ai trouvé intéressant. Parce que je crois dans la pédagogie vis-à-vis des personnes. Donc je me dis, si on arrête cet aspect-là, comment éveiller les conséquences?
Oui, mais ça ne marche pas. Bon, regarde, par exemple, une autre question qui est indépendante et qui m'intéresse par ailleurs, qui n'est pas la même, hein, qui est la question de la cruauté, on va dire, envers les animaux. Bon, ce n'est pas la même chose. C'est un autre truc qui m'intéresse. Ce problème est sur la table maintenant, depuis longtemps. On sait que les abattoirs, etc., c'est l'enfer. On le sait. Tout le monde le sait. Et tout le monde se dit conscientisé. Et il n'empêche que la consommation de viande continue d'augmenter chaque année. Ça ne marche pas, le savoir, en fait. Ça ne marche pas. Tu sais, les philosophes appellent ça la guillotine de Hume. C'est le passage de la description à l'action. Il manque un truc, là. Et pour moi, le truc qui manque, ce n'est pas de la nature du savoir, c'est de la nature du désir. Mais ça, je ne sais pas le faire. Je vais faire. Qu'est-ce qu'il faut? Tu peux le faire avec tes propres enfants, par exemple. Mais tu vas aller dans les écoles et tu vas leur dire, vous savez, regarder Instagram, ce n'est pas désirable. Il faudrait mieux regarder les arbres. Sérieusement, je n'y crois pas. Quoi. Tu peux le faire avec tes gamins parce que tu les vois tous les jours. Hein. Tu leur parles, tu leur proposes, tu les amènes. Mais tu vas les militer, tu vois, en disant ça. Moi, je pense que, bon, ils vont y arriver. Quoi. Je ne sais pas faire. Si tu as des idées, je.
Oui, alors, tu disais que dans 30 ans, on regardait peut-être les débats politiques potentiels et on serait intéressé. Est-ce que tu ne dis pas que dans 20, 30 ans, on aura peut-être nos enfants, nos petits-enfants, qui diront que le GEC a produit des rapports qui ressemblent à des rapports d'autopsie de mortel, mais qui se succèdent. Tu avais conscience de la catastrophe, tu avais conscience, mais tu as du crédit dans la production scientifique qui a créé cette catastrophe, des fonctionnaires. Là, je dis tu, c'est pas toi.
Oui, mais je peux.
C'est bien sûr. Tu étais fonctionnaire, tu as été l'eau, voyons, progrès, dans le service public et bien ça, c'est la connaissance. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu avais des moyens financiers, tu avais accès à la connaissance, dans des conditions très confortables. Et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est confortable de dire, ah, mais j'ai juste regardé un peu si mes valeurs étaient bonnes, et la finalité, ce que je faisais, n'était pas trop visible, et donc j'ai continué à faire un truc complètement éclairé, déconnecté à la réalité. Est-ce que, pour revenir au intitulé de cette conférence, est-ce qu'on n'a pas, notre devoir aujourd'hui va pas un peu plus loin, compte tenu de ce qui se passe, est-ce qu'il ne faut pas repenser notre éthique de travail? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui nous oblige?
Oui, qui nous oblige, je ne sais pas, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est compliqué, c'est, loin de moi, l'idée de dire il faut simplement faire un geste d'introspection et tout va bien. En fait. C'est simplement que c'est compliqué d'identifier ce qui fonctionne. Moi, il y a 3 ans, je suis parti comme un chevalier preux. J'ai écrit un livre qui s'est plutôt bien vendu. Mon éditeur a pété les plombs, ils sont adorables et très gentils. Quand je leur ai dit que je voulais arrêter, je ne voulais pas en faire la promotion, ils me disaient, c'est bizarre, t'écris un truc, tu ne veux pas le promouvoir, etc. Et en fait, je pense aujourd'hui que le bilan est négatif. Il y a plein de gens qui m'ont lu, qui m'ont dit, grâce à vous, j'ai fait confiance. Et alors, je veux dire, c'est mon but, il a enrichi Amazon, il a enrichi les librairies, il m'a enrichi moi un peu d'ailleurs aussi. On n'a pas imprimé sur papier recyclé parce que c'est pas possible en France, etc. Et donc, à la fin, qu'est-ce que tu as fait en fait? Bah, tu as participé au système. Donc, tu as la conscience tranquille, maintenant je suis dicté écolo, c'est très bien, mes enfants ne me reprochent pas de ne pas l'avoir été. Mais je ne crois pas avoir été réellement utile. Je pense même avoir plutôt joué à contre. Donc, il faudrait être plus révolutionnaire que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que je pense que écrire un bouquin, passer à la télé en disant les mecs ils déconnent, ou faire une conférence à droite à gauche pour le répéter, ça donne bonne conscience, mais je ne crois pas que ça infléchisse même dans le bon sens. Je crois qu'il faut être plus révolutionnaire que ça. Alors là, je serais un peu en mal d'être prescriptif, mais effectivement, on ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Quoi. Je ne sais pas, moi, continuer aujourd'hui de participer à cette grande bouffonnerie d'évaluation de la recherche, etc., où on n'a absolument plus de remise en cause, peut-être que ça, par exemple, on pourrait considérer que c'est juste intenable. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais il n'est pas Grothendieck qui veut, hein. C'est que Grothendieck, il s'est rendu compte que 5% du budget de l'IHS venait du ministère de l'Armée, il a démissionné de l'IHS, après il s'est rendu compte que la technoscience était intrinsèquement problématique, il a démissionné de tout. Il est allé s'enfermer dans un petit village. Je ne sais même pas si c'est souhaitable, en fait. En fait, je ne sais même pas ce qui est souhaitable, c'est ça qui est compliqué, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il faudra aller au-delà.
On a quelques questions Internet que je vais relayer. Et on va prendre dans des ordres, parce que la première elle répond plus directement et la deuxième est plus provocatrice. On pourrait demander plus de temps de réponse. La première, c'était sur la question de la pluridisciplinarité de façade dans certains labos. On commence à avoir des résidences d'artistes. Est-ce que tu as un point de vue sur ces initiatives? Et en lien avec ce poste, les artistes avec les chercheurs peuvent créer des souvenirs du futur, c'est-à-dire des pièces d'anticipation vers un futur désirable.
Alors déjà, je suis absolument certain que l'art est un levier fondamental. Mais attention, hein, l'art au sens fort, c'est-à-dire pas simplement l'illustration, pas simplement la détente. Ça, c'est pas ça, l'art. L'art, c'est quelque chose de grave, l'art. Donc, le vrai art, je trouve que je comprends même pas en fait comment c'est possible, quand on regarde les enseignements au lycée, au collège, que les cours d'art plastique et de musique soient à ce point dénigrés, en fait. Parce que franchement, bon, c'est très bien de faire la création, hein. Le cours de musique, c'est vraiment, on peut faire autre chose, quoi. Et on peut jouer sur à Fortnite en ligne sur son téléphone, quoi. Je trouve ça dingue, en fait, parce que c'est vraiment les moments où on peut réagencer nos systèmes symboliques. Donc, je trouve que, oui, il n'y a aucun doute pour moi que ce type de réflexion est bienvenue. Après, voilà, c'est bien aussi que les résidences art-sciences étiquetées programme d'excellence, ça va être essentiellement du bullshit, quoi, comme tout le reste. Non pas parce que les gens ne sont pas bons, il y a certainement des très bons scientifiques et des très bons artistes qui vont participer à ça, et on sait bien comment ça va se passer. Il va y avoir un peu de route, il va y avoir des délivrables, il va y avoir des work packages, il va y avoir de la poudre aux yeux, et à la fin, il faudra ne pas être trop subversif, parce que si on l'est trop, ça ne passera pas, et on n'aura pas la prochaine bourse, quoi. Donc, je suis quand même un peu circonspect dès que ça s'institutionnalise. Voilà. Okay. Mais je le dis moi-même depuis un point de vue institutionnel. Donc, évidemment, c'est paradoxal.
Une autre question de Maxime, c'est enfin une réflexion. Et donc, la réponse au problème, c'est sur, finalement la démission de ce type de futur et donc de nos emplois.
c'est pas exactement ce que j'ai dit, en fait. J'en sais rien, c'est une réponse possible. Démission de l'emploi, c'est une façon de réagir, c'est vrai. Mais une autre façon, c'est aussi de ne pas démissionner et de ne pas accepter de pratiquer les choses telles que nous faisons aujourd'hui. Et là, une fois de plus, hein, c'est vraiment de l'introspection, parce que moi, je n'estime pas être exemplaire du tout, en fait. Donc, je vois que c'est compliqué. Mais honnêtement, cette inflation-là de papier, de machines, etc., on sait très bien, au fond de nous, que souvent, ça n'a pas de sens. Et pourtant, on le fait quand même. Alors, on essaye de ne pas le faire. C'est compliqué, parce qu'on a un doctorant. Et on sait que le doctorant, si on ne veut pas publier son avenir, il faut quand même qu'il le publie. On se donne bonne conscience. Enfin, moi, je me donne conscience en me disant « Oh, si ça ne donnait qu'à moi-même, je ne publierai pas cet article intéressant. Mais quand même, c'est bien pour mon thésard, donc je publie quand même. » En même temps, mon indice H à moi, il augmente un peu aussi. Et on est prisonnier de ce truc. Démissionner, je ne sais pas, parce que moi, j'ai quand même toujours le petit espoir quand même que de comprendre les lois de l'univers et démontrer des théorèmes ou explorer ou observer des exoplanètes, c'est plutôt chouette, en fait. La science, elle reste quand même plutôt belle, mais honnêtement, la manière dont on l'a fait pose quand même un problème systémique. Pas uniquement parce que, oui, j'ai vu l'année dernière qu'il y avait encore des conférences qui avaient lieu sur des paquebots, des conférences croisières, les mecs, c'est honteux, quoi, c'est obscène. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais au-delà de cette partie-là, qui, je pense, va quand même rapidement couler, parce que bon, on n'est pas totalement débile, donc ça, tout le monde le voit que c'est plus possible. Mais au-delà de ça, je vois quand même que remettre en cause nos chaînes d'excellence, c'est très compliqué. Alors que finalement, on le sait tous, au fond, qu'on a des collègues qui sont super brillants, super intelligents, super estimés, ces collègues pouvant être nous-mêmes, mais qui n'ont super pas contribué à la compréhension de quoi que ce soit sur le réel. C'est peut-être moins vrai chez vous, à l'Institut Tunnel, parce que vous faites des choses vraies. Mais chez moi, en physique des particules et en gravitation relativiste, souvent on travaille sur des objets qui n'existent même pas. Vous savez, nous, on rajoute comme ça des choses scalaires, dans l'univers, etc. C'est super, on a l'air intelligent. On dit ça dans PRL, je crois géniaux, mais à la fin, on n'est même pas humain de ce qu'on fait.
On prend encore deux questions.
Une petite réflexion.
Je vais quand même en glisser une d'abord. Pourquoi je vais prendre celle d'Internet en priorité, parce que dans 4 minutes, la technologie se rappelle à mon gros souvenir et ça va s'interrompre de soi-même. Et ça, c'est bien, en fait. C'est rigolo. Et donc, le chargeur, quand je vais le chercher, ce sera fini. Et donc, désolé pour nos amis internautes, vous n'aurez pas la conclusion. Les dernières questions. Voilà, je suis bien au-dessus.